se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bienvenue sur votre radio de proximité, Radio Présence dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec vos rendez-vous habituels. Dans 10 minutes, l'interview du jour. Thibaut de Tuile est avec Niels Brunet, directeur de l'agence des chemins de Compostelle. Cette agence fête ses 30 ans. Dans 20 minutes, Église Actualité pour tout savoir avec Emmanuel Pella. Le tour des diocèses, c'est en deuxième partie d'heure et ça se passe en Ariège. Votre chronique, Air du Temps avec Patrice Demplanquette. Aujourd'hui, il nous parle des élections présidentielles en Amérique et de la crise sanitaire à voir en fin d'heure, bien évidemment. Juste avant toutes ces belles émissions et votre météo, l'essentiel de l'actualité dans notre partie d'Occitaniste avec Luc Vidal-Giraud.
C'est ce soir que nous serons fixés sur le contour des nouvelles mesures envisagées par le gouvernement pour contrer l'expansion de la pandémie de Covid. Comme partout ailleurs, cette progression est bien réelle. En Occitanie, il y a un mois, la moyenne hebdomadaire des cas positifs supplémentaires était de 6 000. Aujourd'hui, elle est de 16 000. Depuis deux semaines maintenant, le nombre de cas graves augmente aussi fortement. On est ainsi passé de 200 hospitalisations par semaine mi-septembre à 700 aujourd'hui. 5 militants pour le climat accusés de vol en Réunion après avoir décroché 3 portraits d'Emmanuel Macron en 2019 dans des mairies du Gers comparaissaient devant le tribunal correctionnel d'Auch. Le tribunal les a relaxés, retenant la liberté d'expression comme motif légitime. Il se dit candidat à un nouveau mandat. Georges Méric annonce dans un entretien à la Dépêche du Midi qu'il se représentera aux élections départementales de 2021. Probablement à la tête d'une liste de rassemblements de la gauche. Il n'y aura pas de porcherie industrielle sur le plateau de Gers entre Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. La coopérative FIPSO, qui portait le projet, a annoncé hier qu'elle jetait l'éponge, expliquant qu'elle préférait investir dans des zones moins hostiles. C'est un projet hors norme que porte actuellement l'Association des paralysés de France à Cahors, celui de la création d'habitats inclusifs pour les personnes ayant un handicap et des personnes âgées. Ce sont au total 12 appartements dont la livraison est prévue à l'automne 2021, qui vont être construits au cœur du quartier de la Croix de Fer à Cahors. Et puis en rugby, un Castrais remplace un Toulousain. Forfait pour le match de samedi du 15 de France contre l'Irlande, le joueur du stade toulousain Selevasio Tolofua sera remplacé par le troisième ligne du Castres olympique, Anthony Jelonche.
Le prochain point sur l'actualité, c'est dans moins d'une demi-heure sur votre radio chrétienne.
La météo.
Pour cet après-midi, de la grisaille partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées, à part dans le Lot, où vous aurez des éclaircies, 16 degrés en moyenne. Demain matin, près de la gare de Figeac, il y aura de gros nuages, ainsi que dans l'Aveyron, le thermomètre affichera 10 degrés. Partout ailleurs, le soleil montrera le bout de son nez, 12 degrés près de la Cité de l'Espace à Toulouse, ainsi que dans le Gers, 10 pour nos amis Saint-Gaudinois, et dans les Hautes-Pyrénées. Pour l'après-midi, des rayons de soleil dans notre beau paysage d'Occitanie, 18 degrés près du poste le Mont-Saint-Cyr à Cahors ainsi qu'à Auch et à l'entrée des Halles de Lourdes, le seul département où il fera gris, ce sera pour Rodez avec 12 degrés.
Présence sur le plateau de Lannemezan 92.2.
Il est temps pour nous de retrouver Thibaut de Tuile et son invité pour parler des chemins de Saint-Jacques.
Bah, vous m'avez grillé mon introduction, mais c'est pas grave. Je voulais vous refaire la question qui tue. Donc, effectivement, nous allons parler ce matin avec le directeur de l'agence des chemins de Compostelle. Bonjour Niels Brunet.
Bonjour.
Nous allons parler des chemins de Saint-Jacques, de l'agence des chemins de Compostelle. Pourquoi ça nous semble intéressant? Parce que vous fêtez cette année les 30 ans de la création de cette agence. Oui. 30 ans pendant lesquels on a vu le nombre de pèlerins augmenter de manière absolument considérable. Vous comptabilisiez 3500 pèlerins en 1988, ils sont 350 000 en 2019. C'est un succès qui est complètement fou. Et entre les deux, il y a eu l'inscription des chemins de Saint-Jacques au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais commencer par vous poser cette question. Vous êtes donc directeur de l'agence des chemins de Compostelle, qui est un, ouvrez les guillemets, opérateur des collectivités locales pour valoriser ce patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire, un opérateur de collectivités locales, concrètement?
Ça veut dire que, en fait, la majorité de nos membres, nous sommes une association, la majorité de nos membres sont des collectivités territoriales, des communes, des villes, des départements, des régions. Et donc, toutes ces collectivités ont souhaité se retrouver au sein de cette agence pour assurer l'aménagement, le développement et la mise en valeur des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Donc, ça veut dire que quand vous rassemblez tout le monde, vous louez un forum avec 350 maires qui sont là ? Non, je ne pense pas.
Pas autant que ça, mais on a quand même aujourd'hui 160 adhérents.
160 adhérents, oui.
Dont un peu plus d'une centaine de collectivités territoriales.
D'accord.
Donc c'est vrai que quand on organise nos assemblées générales ou d'autres réunions importantes, on a besoin de place.
Oui. Vous êtes situé à Toulouse parce que, le Toulouse, c'est l'épicentre des chemins de Saint-Jacques en France. Pourquoi cette...
Parce que la structure a été créée, vous le rappeliez, il y a 30 ans,
oui.
Par les régions en fait, du sud-ouest de la France. Donc à ce moment-là, c'était Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Oui.
Donc Toulouse était assez centrale de ce point de vue-là. Et puis parce que très vite, la ville aussi de Toulouse s'est impliquée sur le sujet. Et c'est la ville de Toulouse qui nous loge aujourd'hui dans ses locaux. Au centre, près de la place de la Bourse, 4 rue Clément Cizor, pour ceux qui veulent venir nous rencontrer.
On peut passer vous voir.
Bien sûr.
D'accord. Donc les fondateurs, ce sont les régions, une impulsion des régions, avec des collectivités locales qui sont des membres. Et vous, votre rôle dans tout ça, qu'est-ce que c'est alors ?
Dans notre rôle dans tout ça, c'est en fait d'accompagner le développement, l'aménagement, et la mise en valeur des chemins de Saint-Jacques. Alors ça veut dire quoi derrière ces thèmes un peu génériques ? Ça veut dire qu'on va travailler avec les collectivités sur les aménagements, sur les services qui sont proposés aux itinérants, aux cheminants. On va travailler avec les collectivités sur la manière dont elles peuvent valoriser leur patrimoine, la manière dont elles peuvent raconter leur histoire aux cheminants. On va travailler avec les hébergeurs sur la manière d'être un ambassadeur des chemins de Compostelle et la manière, effectivement, d'accueillir un public qui est un public spécifique, les cheminants, effectivement, avec dans une démarche, avec des distances parcourues à pied, avec un équipement et du matériel. Donc ça peut être aussi des éléments très, très, très concrets.
Vous allez les pousser à faire des travaux, par exemple, ou vous allez les...
On peut effectivement, les conseiller ou les amener à prévoir des aménagements ou des équipements spécifiques. Ça nous arrive assez fréquemment d'avoir des contacts avec eux, alors soit en phase de création d'un hébergement, soit un hébergement existant qui peut évoluer ou dont le positionnement peut évoluer. Parce que parfois, la plupart des cas, les hébergements ne sont pas que des hébergements pour les cheminants, mais aussi d'autres types d'activités d'accueil.
D'accord. Donc c'est 30 ans d'existence, 30 ans d'activité. Une grande étape au milieu de ces 30 années, ça a été le classement des chemins de Saint-Jacques au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi avoir désiré cela ?
C'est tout un contexte, en fait. Et c'est lié aussi à la création de notre structure. Les chemins de Saint-Jacques ont commencé à connaître un regain d'intérêt dans les années 70, 80, ça a été progressif. Et à la fin des années 80, en 1987, le Conseil de l'Europe, dans une déclaration à Saint-Jacques, reconnaît les chemins de Saint-Jacques comme le premier itinéraire culturel européen. Donc reconnaît la dimension culturelle de ce chemin et la dimension de lien aussi entre les pays de la future Union européenne. Donc 1987, c'est une date importante et c'est le début des reconnaissances internationales, des reconnaissances des acteurs internationaux. Et ça va s'enchaîner de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en 1993, l'Espagne demande à l'UNESCO l'inscription du chemin de Saint-Jacques, à l'époque Camino français, sur la liste du patrimoine mondial.
C'est venu par l'Espagne,
mm-hmm. Tout à fait. Comme souvent, bien sûr, c'est lié aussi à la destination, au but du pèlerinage. Et avec le souhait aussi, effectivement, de valoriser cette histoire, de valoriser ce patrimoine et d'ouvrir aussi l'Espagne à l'Europe, en fait, et aux habitants de l'Europe entière. La logique étant que ça ne s'arrête pas à l'Espagne, parce qu'on est sur un patrimoine européen, sur une histoire européenne.
Par définition transfrontalier.
Exactement. Et en fait, l'ICOMOS, qui est l'organisation des experts en fait, internationaux, a encouragé d'autres États en fait, à poursuivre la démarche initiée par l'Espagne. Et la France a donné suite. Donc c'est l'État français, via le ministère de la Culture, qui s'est saisi du dossier. Et qui a commencé à réfléchir à ce qui pourrait être inscrit en France pour illustrer les chemins de Saint-Jacques. Voilà. Et le ministère de la Culture s'est associé à notre agence, à la Société française des Amis de Saint-Jacques, à la Fédération française de la randonnée pour constituer le dossier d'inscription.
Parce que c'est à la fois temporel, c'est un chemin, on marche, ce sont des abbayes, ce sont des églises, etc. Et en même temps, spirituel, parce que quand on classe le chemin de Saint-Jacques, on classe aussi le cheminement, le pèlerinage.
Oui, d'une certaine façon. Ce qui était compliqué à ce moment-là, c'est qu'il n'existait pas la convention du patrimoine sur le patrimoine immatériel.
Oui.
Ce qui est arrivé un peu plus tard.
D'accord.
Donc en fait, la seule possibilité d'inscription, c'était une inscription d'un patrimoine matériel.
Donc une liste, une série de monuments.
Exactement. Voilà. En tout cas, des éléments physiques. D'où de la sélection des 71 monuments en France et des quelques tronçons de sentiers qui vont illustrer la route, justement. Et qui ont une vocation un peu symbolique aussi et plus immatérielle. C'est-à-dire qu'on va sélectionner à un moment ces portions de route matérielles, mais pour illustrer le cheminement, la route, l'expérience du voyage. Donc il y a évidemment une dimension immatérielle dans cette inscription, qui est une inscription pourtant principalement d'édifices patrimoniaux.
Mais alors, Niels Brunet, je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence des chemins de Saint-Jacques. Comment est-ce que vous expliquez cette explosion de la fréquentation des chemins ces 30 dernières années? À quoi est-ce que c'est dû? Quelle est votre analyse?
Je pense que... alors, il y a une explosion à la fois en nombre et il y a une explosion géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, à Saint-Jacques-de-Compostelle, on était sur 188 pays comptabilisés, des pèlerins ou des cheminants qui étaient originaires de 188 pays. C'est un phénomène mondial, en fait. C'est ça qui est étonnant. On l'explique de différentes manières. On avait fait une enquête il y a maintenant quelques années. On projette d'en faire une nouvelle l'an prochain sur justement les profils, les motivations du public. Et on s'aperçoit qu'elles sont multiples, en fait. Il y a la motivation religieuse, pour une part encore aussi des cheminants, dans une démarche de pèlerinage. Mais il y a une dimension aussi spirituelle, très forte, dans un sens ou dans une acception plus large, en fait. Un chemin comme un chemin d'expérience, comme un chemin de retour vers soi, comme un chemin de transformation, comme une expérience, un moment de rupture aussi. On l'observe beaucoup dans des témoignages. Effectivement, de rupture positive ou plus dure, c'est-à-dire dans une étape de deuil, de séparation, ou de perte d'emploi, mais aussi dans un besoin, un moment simplement de prendre du temps, en fait. Et je crois que le phénomène va croissant parce que il répond sans doute à des aspirations et à des transformations de notre société, à des aspirations qu'on peut avoir chacun d'entre nous, c'est-à-dire un moment de couper, d'arrêter cette frénésie, de se retrouver, de prendre le temps, de rencontrer l'autre, de prendre le temps des échanges. C'est une démarche humaniste, en fait, finalement.
Alors, j'aimerais vous faire parler des projets pour les 30 prochaines années, mais on est quand même rattrapé par l'actualité. Peut-être que dans quelques jours, les chemins seront nécessairement par eux-mêmes vidés de leur substance, sans plus aucun pèlerin, plus personne qui ne marche avec le confinement. Comment est-ce que vous vivez ces moments-là?
C'est des moments très durs. Alors là, peut-être qu'on s'y prépare davantage encore que le confinement qu'on a connu au printemps. Ouais. C'était dans le lancement, en fait, de l'année, avec un démarrage qui avait plutôt été encourageant sur les premiers mois, juste avant le mois de mars. Donc c'est assez dur parce que souvent on construit ce projet-là de longue date, on s'y projette. Alors on doit simplement le décaler de quelques mois.
Alors vous n'avez pas d'obligation de résultat, on vous demande pas de faire des chiffres de pèlerins.
Non. On a besoin d'être prêt pour aussi communiquer sur ce qu'on peut trouver sur les chemins, sur quel itinéraire on peut emprunter, etc. Donc on va mettre à profit la période qui vient pour préparer l'année prochaine, en espérant des jours meilleurs. Mais une petite anecdote, j'étais en contact avec un partenaire qui travaille sur le Pays Basque, qui me disait la semaine dernière qu'ils avaient observé la fermeture de la frontière en Navarre, en fait. Donc l'impossibilité pour des pèlerins de poursuivre leur chemin.
Ouais.
Et la déception très très, très forte, en fait, de se retrouver coincé là,
à la frontière.
Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont en chemin.
Oui. Ouais.
Ah oui, c'est dur. C'est dur, mais c'est dur pour tout le monde, là, je crois.
C'est dur pour tout le monde. C'est pas une note très encourageante pour finir cette interview, Nils Brunet. Mais en tout cas, voilà, peut-être que les semaines qui s'avancent devant nous un petit peu plus dures sont aussi le moment de préparer, en allant sur votre site internet ou ailleurs, un chemin pour le printemps prochain, un printemps de la Renaissance, un chemin pour repartir sur les chemins de Saint-Jacques.
Au moment où on aura, je pense, du plaisir à se retrouver et à retrouver ces espaces.
Exactement. Merci beaucoup, Nils Brunet, d'être venu ce matin au micro de Radio Présence pour évoquer les 30 ans de l'Agence des Chemins de Compostelle. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Dans 5 minutes, vous allez tout savoir sur l'agenda diocésain avec Emmanuel Pella. En attendant, je vous propose de faire une petite pause de mélancolie sur Présence avec Patrick Bruel.
Moi qui ai toujours noirci des pages pour des chansons de pluie, fait des faits 100 fois mes bagages pour trouver un abri. Ce soir mon stylo fait la gueule, y'a rien à en tirer. Il préférait quand j'étais seul, plus facile de chialer. Le bonheur c'est plutôt chouette, mais comment ça s'écrit? J'ai beau traîner de bar en bar comme un poète maudit. Depuis le soir où tu as posé du soleil dans ma vie, j'ai l'impression de tomber en panne de mélancolie. J'ai essayé d'écrire une chanson pour pleurer, d'être jaloux dans mes couplets, de me faire des comédies guimauves dans les ciné. J'aurais aimé, tellement aimé courir sous des pluies de regrets, m'imaginer que c'était notre dernier baiser. J'aurais aimé, mais je t'aime trop pour y arriver. Si tu me quittais juste une semaine, histoire que ça vienne un peu, je pourrais t'envoyer des je t'aime qui font couler les yeux. Je pourrais marcher le long des dunes en me disant que c'est fini. Oui, mais voilà, ça s'appelle une panne de mélancolie. J'ai même fouillé au fond de ton sac pour trouver des idées. J'ai vu des mots d'amour en vrac que tu m'écris en secret. J'ai vu des photos de mecs tout nus qui se tenaient par la main. Et le soir quand je suis rentré, tu leur donnais le bain. J'ai essayé d'écrire une chanson pour pleurer, sucrer le sucre de mon café et colorier de peine toutes les nappes en papier, me déguiser et te séduire pour te surprendre à me tromper, être le mec à qui on sourit embêté. J'aurais aimé, mais tu m'aimes trop pour y arriver. Pas entre deux biberons à la prendre au pied de la lettre. J'échange pas un sourire de toi contre une chanson jolie. Et j'espère qu'on excusera ma panne de mélancolie. J'ai essayé d'écrire une chanson pour pleurer. J'étais si peu désespéré. Même mon psy a fini par déprimer. J'aurais aimé, tellement aimé que mes potes puissent me consoler, tellement aimé qu'au poker ils me laissent gagner. J'aurais aimé, mais on s'aime trop pour y arriver. De mélange.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Église Actualité, Emmanuel Pellat.
Demain, jeudi 29 octobre, à Sainte-Vallière, l'association Camino organise pour rappel une conférence autour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sur le thème « L'hospitalité sur les chemins de Saint-Jacques ». Rendez-vous demain, jeudi 29 octobre, à 18h, à la salle des fêtes, à Sainte-Vallière. Pour tout renseignement, un site internet www.chemin-compostelle.com. Ce samedi 31 octobre à Toulouse, le diocèse de Toulouse propose de venir participer pour rappel à la messe de consécration virginale de Bernadette Bourreau en présence de Mgr Robert Legal, archevêque du diocèse. Rendez-vous ce samedi 31 octobre à 18h à la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Ce samedi 31 octobre également, à Toulouse également, la fraternité Bethesda organise le samedi de la grâce. Au programme, chapelet, louange, prière charismatique et enseignement de Stella Marie Larocque, membre engagée d'une communauté appelée la communauté mère du divin amour. Rendez-vous ce samedi 31 octobre à l'église Notre-Dame de Lourdes à 14h à Toulouse. Ce dimanche 1er novembre, à Naï, la communauté des Béatitudes de Naï propose de participer à une journée de la sainteté, animée par Dominique et Elisabeth Lemaître. La sainteté n'est pas quelque chose de rébarbatif, mais au contraire, c'est un chemin de bonheur, expliquent les organisateurs. Rendez-vous ce dimanche 1er novembre à 9h30 à la communauté des Béatitudes à Naï. Enfin, lundi 2 novembre, à Rodez, le diocèse de Rodez et de Vabre, à l'occasion de ce jour des défunts, organise une messe en mémoire des personnes décédées pendant le confinement ou du Covid-19. Rendez-vous lundi 2 novembre à 18h à la cathédrale de Rodez.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
L'essentiel de l'actualité avec Luc Vidal-Giro en ce mercredi 28 octobre dans l'Occitanie.
Bonjour à tous, c'est donc ce soir que nous serons fixés sur le contour des nouvelles mesures envisagées par le gouvernement pour contrer l'expansion de la pandémie de Covid. Comme partout ailleurs, cette progression est bien réelle. En Occitanie, il y a un mois, la moyenne hebdomadaire des cas positifs supplémentaires était de 6 000. Aujourd'hui, elle est de 16 000. Cette flambée touche principalement les tranches d'âge 20-29 ans et 30-49 ans. La région compte désormais 1210 personnes hospitalisées, dont 267 malades en réanimation. Depuis deux semaines maintenant, le nombre de cas graves augmente fortement. On est ainsi passé de 200 hospitalisations par semaine mi-septembre à 700 aujourd'hui. Les taux d'occupation des lits de réanimation par des malades Covid dépassent les 60% en Ariège, dans le Gard et dans le Tarn-et-Garonne. À Nîmes, le CHU a dû transférer une dizaine de patients vers d'autres établissements hospitaliers. Les CHU d'Occitanie, eux, se préparent à activer le niveau 3 du plan blanc. Cela signifie l'ouverture de lits supplémentaires dédiés aux patients Covid. Et parallèlement, des opérations de chirurgie et de médecine jugées non urgentes peuvent être déprogrammées et les étudiants en médecine et les élèves infirmiers peuvent être mobilisés. 5 militants pour le climat accusés de vol en Réunion après avoir décroché 3 portraits d'Emmanuel Macron, c'était en 2019, dans des mairies du Gers, comparaissaient cette semaine devant le tribunal correctionnel d'Auch. Le tribunal les a relaxés, retenant la liberté d'expression comme motif légitime. A noter que le recours à ce motif pour appuyer la relaxe constitue une première depuis le début d'une série de procès similaires de décrochage du portrait présidentiel dans tout le pays. Il y en a eu une trentaine. Le tribunal a considéré que l'infraction de vol était constituée, mais a retenu qu'il s'agissait d'une action de protestation politique, s'inscrivant dans un débat d'intérêt général, nécessitant donc une protection renforcé de la liberté d'expression. Il se dit candidat à un nouveau mandat. Georges Méric annonce dans un entretien à la Dépêche du Midi qu'il se représentera aux élections départementales de 2021, probablement à la tête d'une liste de rassemblement de la gauche. L'actuel président du CD31, également médecin, s'exprime aussi sur la situation sanitaire actuelle, estimant qu'il va falloir désormais s'habituer aux restrictions, car dit-il, il n'existe pas encore de traitement et un vaccin ne sera pas disponible avant l'année prochaine. Georges Méric se veut également le défenseur défenseur des départements, une institution qui reste l'acteur social privilégié, ainsi que le garant de l'équilibre des territoires. Interrogé enfin sur un dossier désormais passé aux oubliettes, celui du retour aux 90 km/h sur les routes départementales, il affirme ne pas être opposé, mais juge que les contraintes imposées par l'État rendent aujourd'hui impossible un retour en arrière. Il n'y aura pas de porcherie industrielle sur le plateau de Gers entre Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. La coopérative FIPSO, qui portait le projet, a annoncé hier qu'elle jetait l'éponge, expliquant qu'elle préférait investir dans des zones moins hostiles. Depuis l'annonce de ce projet de porcherie dans la commune d'Ossin, un projet à 3000 bêtes, une forte opposition s'était constituée, réunie au sein d'un collectif, le collectif Nos Porcharanes. On est satisfait de cette décision qui va dans le bon sens. C'est félicité Francis Bordenave, le maire d'Ossin. Pour l'association, cela démontre qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de mettre en œuvre des projets sans consulter la population et sans se préoccuper de ses aspirations. Fin de citation. C'est, lui, un projet hors norme que porte actuellement l'Association des paralysés de France à Cahors, celui de la création d'habitats inclusifs pour les personnes ayant un handicap et les personnes âgées. Ce sont au total 12 appartements T2 et T3 dont la livraison est prévue à l'automne 2021 qui vont être construits au cœur du quartier de la Croix de Fer à Cahors. Ils y accueilleront des personnes souhaitant vivre de manière complètement autonome, des couples ou bien des personnes vivant avec un proche aidant, souligne APF, qui fait le constat que de plus en plus de personnes accompagnées d'un membre vieillissant de leur famille souhaitent trouver des solutions de logement adaptées leur permettant de continuer à vivre ensemble. Ces logements dédiés dont l'accessibilité est étudiée dans les moindres détails proposent notamment une salle commune animée par un professionnel de l'APF et qui permettra d'accueillir la vie sociale et partagée des résidents. Les communes de Clairvaux, d'Aveyron, Monteil, Saint-Vansa et Toulonjac en Aveyron vont bénéficier de l'état de catastrophe naturelle. Les arrêtés sont parus au journal officiel. Ainsi, Clairvaux d'Aveyron a bénéficié au titre des mouvements de terrain intervenus en décembre 2019. Monteils et Saint-Vansa en titre des inondations et coulées de boue de juin dernier. Et enfin, Toulonjac au titre de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols intervenus entre juillet et septembre de l'année dernière. Un petit mot de sport, de rugby. Un Castrais remplace un Toulousain. Forfait pour le match de samedi du 15 de France contre l'Irlande, le joueur du stade toulousain Célévasio Tolofua sera remplacé par le troisième ligne du Castres olympique Anthony Jelonche. Ce dernier compte 2 sélections avec l'équipe de France. C'était en 2017 contre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.
On vous retrouve en fin d'heure pour un autre point sur l'actualité.
La météo.
Pour cet après-midi, de la grisaille partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées à part dans le Lot où vous aurez des éclaircies, 16 degrés en moyenne. Demain matin, près de la gare de Figeac, il y aura de gros nuages ainsi que dans l'Aveyron. Le thermomètre affichera 10 degrés. Partout ailleurs, le soleil montrera le bout de son nez, 12 degrés près de la Cité de l'Espace à Toulouse ainsi que dans le Gers, 10 pour nos amis Saint-Gaudinois et dans les Hautes-Pyrénées. Pour l'après-midi, des rayons de soleil dans notre beau paysage d'Occitanie, 18 degrés près du poste le Mont-Saint-Cyr à Cahors ainsi qu'à Auch. Et à l'entrée des Halles de Lourdes, le seul département où il fera gris, ce sera pour Rodez avec 12 degrés. Les cloches sonnent, ça veut dire que c'est l'heure de votre rendez-vous, le tour des diocèses. Nous partons sur la fréquence de Tarascon-sur-Ariège où vous nous écoutez sur le 100.2.
Bien, ce sont des cloches qui nous emmènent du côté de Pamiers, de Couserans, de Mirepoix. C'est le nom de ce magnifique diocèse de l'Ariège. Et c'est donc le père Serge Biot. Bonjour mon père.
Oui, bonjour Thibault.
Qui est avec nous. Donc vous êtes vicaire général du diocèse.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter de ce qui se passe dans votre diocèse dans les jours à venir?
Eh bien écoutez, 20 jours à venir, pas tout à fait, parce qu'il y a eu quand même pas mal de réunions, de rencontres qui ont été reportées,
oui, bien sûr.
Étant donné les circonstances, évidemment.
Oui.
Mais là, je vous propose de faire une halte spirituelle au mois de novembre.
Oui.
Une halte spirituelle qui s'intitule « Oh, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble ». En fait, c'est une halte spirituelle qui propose une découverte, une première lecture et un approfondissement de l'encyclique du pape François sur la fraternité.
Effectivement, c'est ce que j'allais vous dire, parce que le titre de votre rencontre m'évoquait immédiatement l'encyclique.
Alors, c'est une halte spirituelle qui se ferait au 14 novembre. Oui. Au centre diocésain d'Orlac, alors c'est un centre diocésain qui en fait est en pleine nature, donc c'est un cadre idéal pour cette halte spirituelle qui est ouverte à toutes les personnes qui le désirent, en fait. À l'origine, c'était une halte qui était organisée par le groupe de catéchèse du diocèse, mais c'est ouvert désormais à toutes les personnes intéressées par le sujet.
Et donc, toutes les personnes et qui nous écoutent, on n'est pas obligé d'être du diocèse. On peut s'inscrire, même si on n'est pas loin.
Tout à fait. Alors, c'est le père Villerieux, l'actuel curé doyen de Pamiers, qui animera cette journée. Donc, c'est vraiment une halte spirituelle. Il y a bien sûr les interventions du père, oui. Mais également des temps de silence, des temps de marche dans la nature, l'Eucharistie. C'est vraiment un moment pour se poser, pour s'arrêter.
Il faut peut-être décrire le centre en question, mais il est au milieu des montagnes, assez en hauteur. Il est assez remarquable de s'y arrêter là-bas.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment un lieu propice à ce genre de journée et également, aussi à des relations, fraternelles avec ceux qui animent le centre.
Oui.
Voilà, alors évidemment, sur la journée, il y aura prévu une méditation de la parabole du bon samaritain. Évidemment, dans la journée, quelques ateliers encore à préciser sur autour de ce thème.
Oui.
Alors, j'espère que les circonstances feront qu'on puisse le faire.
Oui.
Si ce n'est pas le cas, il faudra reporter la date. Mais en tout cas, je pense que c'est indispensable, à mon avis, de présenter cette encyclique du pape François, qui parfois peut être un peu difficile à lire. Et donc, étant donné le sujet quand même, c'est important de faire entrer les personnes dans ce beau texte.
Oui, nous invitons toujours les auditeurs, on le dit à temps et à contre-temps, à se saisir de l'encyclique. L'acheter, c'est vraiment pas cher, c'est 4 euros, je crois. Elle est aussi disponible en ligne gratuitement sur le site du Vatican. Ça reste un langage accessible, ça reste une lecture qui n'est...
Tout à fait.
Voilà, il faut encourager, je pense, les auditeurs, y compris ceux qui viendront à votre rencontre, à la lire avant, peut-être.
Tout à fait. Alors, cette halte spirituelle donc, est le 14 prévu, pour le 14 novembre, donc dans le beau centre d'Ornolac, donc à côté de Tarascon sur l'Ariège, dans la montagne, comme vous dites.
Oui.
Voilà, l'accueil se fait à 9h30 et la journée se termine vers 16h30.
Pour s'inscrire, les renseignements sur le site du diocèse, où est-ce qu'on trouve les éléments?
Oui, écoutez, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'inscription pour l'instant. Par contre, évidemment, il faut prévoir un repas tiré du sac.
D'accord.
Étant donné les circonstances actuelles.
Bien sûr. Nous espérons de tout cœur que ce qui va nous être annoncé ce soir vous permettra de maintenir cette
rencontre. C'est ça.
Et sinon, effectivement, on en reparlera une autre fois, parce que c'est évident que nous avons tous besoin. Merci beaucoup, mon père, d'avoir été au micro ce matin de Radio Présence.
Très bien, merci.
Merci, mon père, au revoir.
L'air du temps, avec Patrice de Planquette.
Bonjour à tous. L'Occident d'aujourd'hui est dans tous les domaines l'empire de l'incohérence. Prenons l'exemple des États-Unis. Dans quelques jours aura lieu la présidentielle. Si le décompte des voix s'embrouille, ça finira comme il y a 20 ans par un arbitrage de la Cour suprême. La Cour suprême est dominée par la droite. 6 juges sur 9 depuis l'arrivée de la dernière recrue de Donald Trump, la juge Amy Coney Barrett. C'est là que je voulais en venir. Madame Coney Barrett est catholique, ce n'est pas moi qui le lui reprocherai. Étant catholique, elle est pro-vie, et c'est cohérent. Ce qui n'est pas cohérent, c'est qu'en même temps, elle est pour les armes de guerre en vente libre. Liberté dont on connaît le résultat, ces fusillades meurtrières si fréquentes entre citoyens américains. Et ce qui est carrément étonnant, c'est qu'une partie de l'opinion publique américaine pense qu'être à la fois pro-vie et pro-armes de guerre en vente libre n'est pas incohérent, que c'est au contraire la plus haute expression du patriotisme constitutionnel, la dimension virile du rêve américain, etc. Aux États-Unis, tout, y compris le Covid-19, est prétexte à acheter un fusil d'assaut. Depuis mars dernier, l'épidémie a déclenché une explosion des ventes d'armes à feu. Les armureries ne désemplissent pas. To Hold a Gun and Shoot est présenté comme la réponse américaine à tout imprévu. Le Vatican condamne le trafic d'armes. Le pape déclare au Congrès des États-Unis, je cite, « C'est notre devoir d'empêcher le commerce des armes ». Les évêques américains demandent depuis 40 ans un contrôle plus strict du commerce et de la détention des armes à feu. L'évêque de Dallas, par exemple, fustigeait en 2016 ce qu'il appelait la mentalité de cow-boy, c'est-à-dire la liberté de porter une arme à feu. Mais la juge Coney Barrett appelle cette liberté meurtrière un droit naturel à l'autodéfense et elle l'enveloppe dans les plis majestueux du deuxième amendement de la Constitution qu'elle interprète de la même manière que le lobby des armes à feu, la richissime association NRA. Le résultat, c'est qu'au Sénat, les adversaires de Mme Coney Barrett attribuent à son catholicisme son soutien à l'industrie des armes. Mais c'est un catholicisme bizarre que celui qui contredit l'Église catholique est dans un domaine terrible. Aux États-Unis, le business des armes à feu tue près de 15 000 personnes par an, 25 fois plus que dans le reste du monde. Alors soutenir ce business, quand on défend par ailleurs le droit à la vie de la conception à la mort naturelle, oui, c'est vraiment une incohérence. À la semaine prochaine.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Shanghai, Daiquiri, Bambi, Galaxy, bonne nuit les petits. Shanghai, Toussaint-Tille, iPad et fossiles, un rien nous habille. Je n'ai plus de famille. Shanghai, Daiquiri, Bambi, Galaxy. Quel est mon pays? Où est ma capsule? Mon cap Canaveral. Tout seul dans ma bulle, loin du carnaval. Est-ce que tout est normal? Shanghai dans la reine, en Porsche Cayenne, carrosse de reine, les autres en quarantaine. Tout seul dans ma bulle, loin du carnaval. Est-ce que tout est normal? Canaveral.
C'était Bambi Galaxy de Florent Marché pour vous donner du courage avant d'aller au travail. Tout de suite, votre évangile en Occitanie.
Radio Présence à Toulouse, 97.9. L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous venons d'entendre ce passage de saint Luc. Il commence par ces quelques mots. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. La première chose que cette parole vient nous rappeler, c'est l'importance de la prière. Nous voyons Jésus prendre une nuit entière de prière avant d'appeler les 12 apôtres. Avant ce moment important de son ministère public, Jésus sent la nécessité de passer la nuit en prière, en lien avec son Père. Alors ce petit fait nous rappelle la très grande importance pour nous de savoir nous arrêter, de nous savoir prendre du temps pour prier Dieu. Cela peut être au travers du chapelet, comme c'est fait quotidiennement à la grotte, ici même. Cela peut être aussi au travers d'un temps en silence, où nous arrêtons toutes nos activités pour tourner notre cœur, nos pensées, vers Dieu le Père, et essayer de l'écouter, de faire silence dans nos vies, arrêter nos activités, nous mettre comme dans la paix, dans l'immobilité, comme perdre notre temps pour être en contact avec Dieu. Il n'y a rien de plus important que cela, et notre évangile commençait par cela. Du coup, je voulais m'arrêter dessus comme premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'aujourd'hui, Jésus appelle, nous avons entendu cet appel des 12, et nous fêtons tout particulièrement Simon et Jude. Ce sont des apôtres qui ne sont pas très connus, Simon le Zélote. Alors Simon le Zélote, les Zélotes étaient des gens, Zélote vient de zéler, c'est-à-dire passionné d'amour pour Dieu. Alors c'était un courant politique, on ne sait pas si Simon le Zélote faisait partie à proprement parler de ce courant politique, mais il est désigné comme celui qui est passionné d'amour pour Dieu, un peu comme Élie, si vous regardez dans le livre des Rois. Jude est connu parce que nous avons une lettre tout à la fin de, enfin dans le Nouveau Testament, qui est assez brève, voilà, écrite par lui. Ce que ça m'évoquait, c'est que si on regarde le Collège des 12 et qu'on prend Simon le Zélote d'un côté, on peut se dire que Matthieu le Publicain, c'est presque l'opposé du point de vue politique. C'est un collaborateur, c'est un homme qui, on pourrait dire, fait des affaires avec les Romains, l'occupant romain, tandis que Simon est au contraire un opposant à l'occupant romain. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que ça ne devait pas être facile de bien s'entendre à l'intérieur du collège des douze. Et c'est vraiment Jésus qui fait l'unité entre ces personnalités, ces caractères différents, et même ces gens qui sont d'opinions politiques différentes, si on peut dire. C'est la même chose aujourd'hui dans l'Église. C'est Jésus qui fait vraiment l'unité, et elle rassemble des gens de tous les pays, de toutes les nations, de toutes les cultures, et même d'opinions politiques différentes, ou de, vous voyez, de pensées différentes. Mais le point vraiment d'unité, c'est Jésus qui nous le donne, et qui est vraiment notre unité. Donc c'est normal que dans l'Église, on n'ait pas le même avis sur tout, mais en même temps, c'est très important de rester unis autour de Jésus, et c'est la personne du Saint-Père dans l'Église catholique qui représente cette unité. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous ce matin, Jésus descendit de la montagne, s'arrête sur un terrain plat, et commence dans Luc ce qu'on pourrait appeler le sermon dans la plaine. Vous savez que dans le Saint Matthieu, il y a un sermon qu'on appelle sermon sur la montagne, Matthieu 5, qui commence par les béatitudes. Et alors Saint Luc reprend un peu, il y a une espèce de parallèle, mais là ça se passe dans la plaine. Et puis juste après ce petit passage, commencent les béatitudes dans Saint Luc. Alors Jésus commence ce moment par prendre soin de la multitude des gens qui est venue. Il y avait beaucoup de gens de la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr, de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Et tous ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé. Jésus commence par prendre soin de la foule qui est là. Il s'approche d'eux, il les guérit dans leur corps, il les guérit dans leur esprit, il chasse les mauvais esprits qui les habitent. Et il manifeste ainsi la miséricorde du Père. Jésus est le visage de la miséricorde du Père. La miséricorde du Père, c'est l'extraordinaire bonté qui règne dans le cœur du Père. On dit que Dieu est comme un Père qui veille sur nous. Il a comme des entrailles de mère. Et sans cesse, il est proche de nous et il nous poursuit par sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous console, nous guérit, nous reconstruit et nous pardonne. Et peut-être le message le plus fort que Jésus vient apporter, c'est précisément d'incarner cette miséricorde, de la rendre visible et de la rendre comme tangible. Alors c'est ce qu'il fait dans ce passage. Et je me disais que vraiment, la grotte de Lourdes est un immense lieu de miséricorde. Depuis les apparitions à Bernadette, des milliers, des milliers, des millions de pèlerins sont venus ici se tourner vers Dieu et accueillir sa miséricorde. Et c'est ce que nous sommes venus faire aussi. Certains en demandant la guérison de leur corps, certains en demandant la consolation et la force pour porter parfois la maladie, pour porter ce qui est difficile. Et Dieu, qui est riche en miséricorde, comme dit la lettre aux Éphésiens, répand en abondance ses grâces à partir de ce lieu. Alors c'est ce que Jésus a fait dans ce passage, c'est ce que nous sommes invités à faire encore aujourd'hui, à ouvrir notre cœur, à lui présenter toutes nos demandes, à lui déposer à ses pieds tout ce qui est difficile, tout ce qui est pesant, peut-être dans notre santé, peut-être dans notre vie, peut-être aussi apporter dans notre cœur les gens qui ont besoin de notre prière. Je pense aussi à tous ceux qui nous suivent à distance, par Internet, par la télévision. Ouvrir notre cœur et recevoir de Dieu, de Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, à la prière de Bernadette, les flots de miséricorde qui coulent encore de son cœur. Amen.
À Millau, 106.5.
Dans 5 minutes, le rappel des titres. Avant ça, la voix douce de Simon & Garfunkel pour vous souhaiter une bon appétit dans notre partie d'Occitanie. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies.
peasant jests till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Présence à Gourdon 104.8.
Les titres en Occitanie, c'est avec Luc Vidal-Giraud.
C'est ce soir que nous serons fixés sur le contour des nouvelles mesures envisagées par le gouvernement pour contrer l'expansion de la pandémie de Covid. Comme partout ailleurs, cette progression est bien réelle. En Occitanie, il y a un mois, la moyenne hebdomadaire des cas positifs supplémentaires était de 6 000. Aujourd'hui, elle est de 16 000. Depuis deux semaines maintenant, le nombre de cas graves augmente aussi fortement. On est ainsi passé de 200 hospitalisations par semaine mi-septembre à 700 aujourd'hui. Cinq militants pour le climat accusés de vol en Réunion après avoir décroché trois portraits d'Emmanuel Macron en 2019 dans des mairies du Gers comparaissaient devant le tribunal correctionnel d'Auch. Le tribunal les a relaxés, retenant la liberté d'expression comme motif légitime. Il se dit candidat à un nouveau mandat. Georges Méric annonce dans un entretien à la Dépêche du Midi qu'il se représentera aux élections départementales de 2021. Probablement à la tête d'une liste de rassemblement de la gauche. Il n'y aura pas de porcherie industrielle sur le plateau de Gers entre Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. La coopérative FIPSO, qui portait le projet, a annoncé hier qu'elle jetait l'éponge, expliquant qu'elle préférait investir dans des zones moins hostiles. C'est un projet hors norme que porte actuellement l'Association des paralysés de France à Cahors, celui de la création d'habitats inclusifs pour les personnes ayant un handicap et des personnes âgées. Ce sont au total 12 appartements dont la livraison est prévue à l'automne 2021, qui vont être construits au cœur du quartier de la Croix de Fer à Cahors. Et puis en rugby, un Castrais remplace un Toulousain. Forfait pour le match de samedi du 15 de France contre l'Irlande, le joueur du stade toulousain Selevasio Tolofua sera remplacé par le troisième ligne du Castres olympique, Anthony Jelonche.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin. Est-ce que c'est encore d'actualité?
Les chemins de Compostelle ont été mis au service de la construction de la paix entre les hommes.
Cet internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui chaque année nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Nous ne pouvons pas savoir ce que l'humanité va devenir au cours des prochains millénaires. En revanche, il s'agit de découvrir le destin des systèmes planétaires.
On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Un rapide survol de votre météo avant votre journal international pour cet après-midi. De la grisaille partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées, à part dans le Lot, où vous aurez des éclaircies, 16 degrés en moyenne. Demain matin, près de la gare de Figeac, il y aura de gros nuages, ainsi que dans l'Aveyron. Le thermomètre affichera 10 degrés. Partout ailleurs, le soleil montrera le bout de son nez, 12 degrés près de la Cité de l'Espace à Toulouse, ainsi que dans le Gers, 10 pour nos amis Saint-Gaudinois. Et dans les Hautes-Pyrénées, pour l'après-midi, des rayons de soleil dans notre beau paysage d'Occitanie, 18 degrés près du poste de le Mont-Saint-Cyr à Cahors ainsi qu'à Auch, et à l'entrée des Halles de Lourdes, le seul département où il fera gris, ce sera pour Rodez avec 12 degrés. Tout de suite, Radio Vatican, votre journal international. Belle écoute pour la suite de vos programmes.
Présence à Super Bagnères 94.
Radio Vatican. Le journal.
Le journal.
Journal de Radio Vatican.
Lors de l'audience ce mercredi, le Saint-Père est revenu sur la prière de Jésus sur les bords du Jourdain, un geste de solidarité.